Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par David Milia.
Par peur, mais aussi par mercantilisme, le marché des armes reste une priorité de nos sociétés occidentales. Une industrie vieille comme le monde qui aujourd'hui est en pleine mutation, l'ère du terrorisme inspire les inventions les plus folles, un arsenal antiterroriste qui ravive la crainte de Big Brother dans un marché de plus en plus opaque. Inquiétude également du côté de la Russie, l'ancien arsenal nucléaire soviétique étant parti à l'abandon, le pays pourrait-il se transformer en supermarché nucléaire ? De leur côté, les États-Unis ont reconnu avoir utilisé du phosphore blanc en Irak, polémique qui rappelle l'utilisation du napalm au Vietnam dans les années 70. Bref, c'est toute la planète qui joue avec le feu. C'était il y a quelques semaines aux Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi accueillait le deuxième salon sur la sécurité au Moyen-Orient. Face à la menace grandissante du terrorisme, les industriels occidentaux multiplient ce type de rendez-vous pour vanter leur arsenal antiterroriste. Les innovations technologiques sont de plus en plus surprenantes dans le domaine. Un nouveau marché est né avec des armes futuristes et surtout une série de gadgets qui rappellent la littérature de science-fiction, dont Big Brother resterait le grand Manitou. Nous avons interrogé Claude Moniquet, président du Centre européen de sécurité d'intelligence stratégique. Écoutez.
Par exemple, il y a une série de sociétés qui sont en train de développer un système de caméras et de programmes informatiques qui permettent, dans un aéroport, en filmant le visage d'une personne, de voir quelles sont les émotions profondes de cette personne et donc d'essayer d'en induire si cette personne peut avoir un comportement dangereux ou pas. La limite que tout le monde aura bien compris, c'est que moi je connais beaucoup de gens qui sont nerveux en prenant l'avion et qui n'ont pour autant aucune pensée négative. Donc il y a quand même effectivement des limites à ces équipements, ce n'est pas de la magie. Cela étant, théoriquement, le but de ce genre d'équipement, c'est d'arriver à réduire très considérablement, très nettement, la masse des personnes ou des biens, des conteneurs, etc., sur lesquels un contrôle approfondi sera nécessaire.
Il y a d'autres technologies de ce type qui se développent en ce moment ?
Par exemple, sur un cas très précis, qui est la question des conteneurs, qui fait s'arracher les cheveux aux gens de la sécurité, il faut imaginer qu'il y a à peu près 100 millions de conteneurs dans le monde, dont 40 millions en Europe, que dans un port comme Rotterdam, on manipule un conteneur toutes les 6 secondes, dans un port comme Singapour, un conteneur toutes les 2 secondes. On craint depuis quelques années maintenant que des conteneurs puissent être employés à, par exemple, acheminer une arme nucléaire dans un port, un grand port occidental comme celui de New York ou de Rotterdam, ou d'autres. Bien, il y a aujourd'hui toute une série de systèmes de surveillance, de contrôle, qui permettent de radiographier les conteneurs, de voir s'ils émettent ou pas des rayonnements de type qui pourraient trahir la présence d'une arme nucléaire, ou des chaleurs qui pourraient être simplement, par exemple, des personnes qui seraient cachées à l'intérieur de ces conteneurs.
Alors il y a aussi le développement des armes à proprement parler. Quelles sont ces nouvelles armes dans ce secteur de la lutte contre le terrorisme ?
Grosso modo, malgré tout, la guerre contre le terrorisme, quand on en arrive à la mener par les armes, par les moyens militaires, c'est une guerre qui va impliquer ce qu'on appelle les forces spéciales, donc les commandos, les parachutistes, etc. Ces forces étaient déjà fortement et bien dotées en armes depuis une vingtaine d'années, avec des marques allemandes comme Klerenkopf, qui sont extrêmement connues, extrêmement efficaces. La différence maintenant, on va avoir des armes qui sont encore plus sélectives, qui par exemple ont des systèmes de visée extrêmement performants à base de laser qui permettent par exemple de viser sans coup férir une personne au milieu d'une foule. Et surtout, la nouvelle tendance, c'est développer des armes non létales. Donc des armes qui permettront d'immobiliser totalement, instantanément, une personne, de manière par exemple à ce qu'elle ne puisse pas détonner une bombe qu'elle porte sur elle, sans la tuer et sans lui causer de préjudice physique grave. Là, c'est une tendance assez nette qu'on observe depuis quelques années, qui d'ailleurs ne s'applique pas seulement au contre-terrorisme, mais aussi au maintien de l'ordre.
Alors, vous avez des exemples de ce type d'armes non létales ?
Eh bien, par exemple, on les a vus utilisés dans le contexte des émeutes en France depuis ces dernières semaines, les pistolets à balles de caoutchouc ou les fusils à balles de caoutchouc. On a aussi ce qu'on appelle les tasers, c'est-à-dire donc des pistolets électriques qui délivrent une décharge instantanée de plusieurs dizaines de milliers de volts, qui n'est pas létale, mais qui va paralyser pendant quelques secondes, parfois une minute, la personne qui est visée. On a aussi, plus surprenant, par exemple, des pistolets qui sont de la taille d'une petite arme automatique et qui permettent de lancer vers une personne un filet lesté qui va réellement engloutir cette personne et l'empêcher totalement de bouger.
Alors entre les armes non létales, les armes classiques et ce qu'on appelait tout à l'heure les gadgets, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une nouvelle industrie de la sécurité ?
Il y a toute une industrie qui, si elle n'est pas nouvelle en tout cas, qui se développe fortement à l'ombre de la menace terroriste. Tout ce qui est protection des lieux, par exemple, tout ce qui est système de caméras, système de clôture, système d'accès, donc les contrôles d'accès, qu'ils soient se fassent sur empreinte digitale, sur la morphologie de la face, sur l'empreinte rétinienne. Il y a toute une série de systèmes qu'on met au point. Et on a bien entendu quelque chose qui pose beaucoup de questions au plan éthique et au plan politique, qui sont tous les systèmes de caméras de surveillance, de vidéosurveillance.
Alors justement, sur ce plan éthique et politique, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste du terrorisme ?
Tout spécialiste de la sécurité agissant en pays démocratique sait que la sécurité absolue, premièrement, n'existe pas, et que à l'arrivée, in fine, la sécurité, ce sera un équilibre le plus juste possible entre la sécurité elle-même et ses impératifs, l'efficacité du système et les droits individuels. Je prends un exemple sur l'efficacité. On peut très bien empêcher presque à coup sûr un avion d'être détourné en multipliant les contrôles. Mais à ce moment-là, tous les avions vont partir avec 5 à 10 heures de retard et le ciel deviendra ingérable. Donc il faut trouver un point d'équilibre. Les moyens de vidéosurveillance permettent de trouver des points d'équilibre en limitant le nombre de personnes qu'on va targeter, comme on dit, donc qu'on va cibler pour des contrôles approfondis. Bien entendu, ça soulève des questions parce que certains estiment qu'il y a une violation de la vie privée. Cela étant, là, je crois qu'il faut être clair aussi. Aujourd'hui, le terrorisme est une guerre qui nous est déclarée, qui est déclarée au monde démocratique. Le fait d'être en guerre nécessite en règle générale un certain abandon de certaines libertés. C'est-à-dire évidemment pas l'abandon total de toutes les libertés, mais incontestablement des restrictions. D'ailleurs, ce qui est frappant à mon avis, c'est que beaucoup de gens s'émeuvent du fait de pouvoir être filmés sur la voie publique, mais les mêmes personnes ne vont pas s'émouvoir du tout du fait que les cartes de paiement, qui sont aujourd'hui généralisées, permettent à des sociétés de marketing privé de connaître absolument tout de leurs habitudes alimentaires, vestimentaires ou de loisirs, et donc de cibler des offres commerciales en direction réellement de leurs besoins propres. À partir du moment où on accepte de manière commerciale, ce qui est quand même non pas une restriction de liberté, mais un abus certainement de connaissances et d'intrusion, je pense que dans l'intérêt de la sécurité collective et individuelle, on peut peut-être comprendre que certaines libertés ne peuvent pas s'exercer en tout temps de la même manière.
Alors avec le développement de ces technologies antiterroristes, de tous ces produits, est-ce qu'on n'a pas un risque de voir passer cette technologie du côté de l'ennemi, entre guillemets ? Je pense à des États autoritaires, mais également à des réseaux un peu nébuleux.
Alors effectivement, c'est le risque de toute technologie, c'est qu'elle peut évidemment être détournée. Et bien entendu, les systèmes de surveillance, qui sont des systèmes qui sont théoriquement donc là chez nous pour minimiser les menaces, pourraient être utilisés dans des États totalitaires pour mieux contrôler la société. Je crois que la seule manière de répondre à de prévenir ce danger, c'est d'arriver à contrôler, comme on le fait dans certaines technologies extrêmement sensibles, à contrôler par exemple les exportations, les licences, à ne pas laisser n'importe qui produire n'importe quoi, et surtout à contrôler les flux commerciaux qui sont générés par ces nouvelles technologies.
Alors justement, à propos de ces flux commerciaux, j'ai une dernière question. Est-ce que certains, finalement, n'ont pas intérêt à alimenter la peur, là encore, entre guillemets, pour faire fonctionner cette nouvelle industrie et ce nouveau marché de la sécurité ?
Alors effectivement, c'est ce qu'on pourrait penser. Cela étant, je pense qu'il faut être sérieux. La menace n'a pas vraiment besoin d'être amplifiée, la menace existe. On a eu en Europe deux attentats majeurs qui ont été ceux de Londres et de Madrid. Les gens de la sécurité, de nouveau dans un système démocratique, ne font, qu'ils soient dans le secteur privé ou public, que s'adapter à cette menace et y répondre. À partir du moment où il y a une demande, il va fatalement y avoir des gens qui vont répondre à cette demande et qui vont peut-être demain bâtir des fortunes dans le contre-terrorisme.
Une attaque biologique menée par Al-Qaïda représente un danger clair et actuel. Interpol s'inquiète cette semaine et pourtant la polémique sur ce terrain des armes chimiques et biologiques vient d'outre-Atlantique. Washington a reconnu avoir utilisé du phosphore blanc en Irak. Le phosphore blanc peut faire des ravages à l'image du napalm au Vietnam. On a en tête ces terribles images de soldats brûlés ou de villageois asphyxiés. Qu'est-ce que le phosphore blanc ? Armes chimiques ou biologiques, armes autorisées ? Réponse avec Dominique Leglu, spécialiste des armes chimiques. Elle dirige la rédaction du journal Science et Avenir, on l'écoute.
C'est une arme conventionnelle. Ce n'est pas une arme chimique. Vous savez, tout le problème avec les armes, c'est qu'elles ont des définitions très précises qui sont écrites dans des traités et correspondent à des définitions extrêmement spécifiées. On donne tous les noms, etc. Donc, le phosphore blanc ne peut pas être considéré stricto sensu comme une arme chimique.
Quels sont ses effets pourtant? Même si ce n'est pas une arme chimique, on a l'impression que les effets sont plutôt les effets d'une arme chimique, justement, parce qu'on parle sur le terrain de choses assez atroces.
Effectivement, le phosphore, tout le monde le sait, est quelque chose qui peut être extrêmement toxique, extrêmement irritant, qui vous brûle. Donc, on sait bien que c'est un produit chimique. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir un jeu sur les mots, et qui n'est pas un jeu, malheureusement, entre ce qui est défini dans une convention, dans un protocole international, et ce que c'est sur le terrain. Les effets du phosphore, c'est typiquement brûler la peau, mais c'est aussi, bien évidemment, si vous le respirez, vous brûlez les poumons, vous empêchez de respirer, vous faire suffoquer.
On peut comparer ça au napalm un peu, qu'on utilisait dans les années 70, au Vietnam notamment.
Le napalm, là, vous avez tous en tête les images du napalm, c'est véritablement dirigé vers soit directement des gens, soit des bâtiments, des huttes à faire brûler. Là, c'est véritablement une flamme qui embrase tout. Le phosphore blanc, il faut s'en souvenir, est plutôt utilisé comme un produit permettant d'avoir une grande lueur qui vous éclaire. Tout le problème, c'est de savoir comment c'est lancé. Est-ce que c'est lancé en l'air pour faire comme lors d'un feu d'artifice, un éclairage général, ou bien est-ce que c'est directement dirigé vers les gens et à quelle distance? Toutes ces choses doivent être spécifiées, bien évidemment.
Et c'est en ça qu'on peut parler d'armes conventionnelles à partir du moment où c'est lancé en l'air.
Mais c'est une arme conventionnelle. Il y a même eu, en 1980, un protocole ajouté à la Convention sur les armes conventionnelles précisant dans quelle mesure on peut utiliser ou non ce type de produit. Et il est clairement dit dans ce protocole que l'on ne doit pas utiliser le phosphore blanc contre des populations civiles ou contre des forces militaires stationnées au milieu de populations civiles. Donc, vous voyez que c'est subtil. En plus, sauf erreur de ma part, les États-Unis n'ont pas signé ce protocole. Donc, vous voyez qu'on est dans un imbroglio à la fois de la définition de l'arme, ensuite de son mode d'utilisation.
Et il y a quand même une forme, peut-être, d'hypocrisie, surtout à l'heure où on s'inquiète de ce fameux terrorisme biologique ou chimique, tout dépend les définitions. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les grandes démocraties qui franchissent un pas un peu, ou en tout cas une frontière un peu fine ?
De facto, il faudrait peut-être aussi que les populations regardent plus attentivement ce que signe ou ce que ne signe pas leur gouvernement. Depuis 1980, eh bien, ce protocole existe et on peut voir quels sont les pays qui ont décidé ou pas de le signer. Bien sûr que les armées peuvent jouer là-dessus. Cela étant, si on peut apporter la preuve à un certain moment que l'on a franchi une ligne qui n'aurait pas dû dépasser, on peut être condamné. En l'occurrence, il est bien possible que ça ne soit pas le cas ici.
La Russie fait peur. L'OTAN rappelle que le pays a encore un stock d'armes de destruction massive impressionnant, un stock que personne n'est aujourd'hui capable de quantifier, pas même les autorités. Des missiles et des têtes nucléaires sont cachés dans tout le pays et dans certaines anciennes républiques soviétiques. Le risque, voir des terroristes se servir, tout simplement. Quelle est la réalité de la menace, ce triste héritage de l'ancienne URSS? Nous avons posé la question à Cyril Gloagen, géopolitologue, spécialiste des questions de défense à l'université Paris 8.
C'est une réalité, même si ça paraît complètement invraisemblable, que les Russes eux-mêmes, enfin les Soviétiques à l'époque, ne savaient pas exactement de combien de têtes ils disposaient. Pourquoi ? Parce que ces têtes étaient vraiment réparties jusqu'au niveau régimentaire, c'est-à-dire que le colonel commandant un régiment de missiles pouvait décider du lancement d'une tête nucléaire à son niveau. Bien entendu, une utilisation tactique, c'est-à-dire une utilisation de l'arme nucléaire sur le terrain. Donc on se retrouve encore aujourd'hui avec énormément de têtes. On ne sait pas trop combien il y en a. Les dépôts sont complètement surchargés. Certains experts estiment que ces dépôts ont été surchargés à raison de 60 à 70% de plus que ce pour quoi ils avaient été construits. On sait également que nombre de ces dépôts sont à la fois mal gardés et mal entretenus. S'il fallait compter le nombre de dépôts d'armes conventionnelles qui ont explosé ces dernières années, ces 10 dernières années, il y en a absolument énormément. Le dernier a eu lieu il y a environ un mois et demi, du côté de Vladivostok. Il faut également rappeler que la plupart des gens militaires ou civils qui gardent ces entrepôts sont très mal payés. Donc il est très difficile de dire exactement si ces entrepôts sont bien gardés. On peut effectivement imaginer que certaines têtes aient pu disparaître. Il y a d'ailleurs eu des histoires de disparition de têtes. Dernièrement, il y a un homme politique ukrainien qui a évoqué la disparition de certaines têtes nucléaires en 1994. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le territoire de l'ex-URSS en général représente énormément de cas de disparition, pas de têtes nucléaires elles-mêmes, mais de matériel nucléaire, entre autres d'uranium, etc.
Imaginons d'un groupe de personnes plutôt malveillants, il arrive sur les territoires de l'ex-URSS, que ce soit en Russie ou je ne sais pas, en Ouzbékistan ou en Ukraine ou ailleurs, et il se sert.
On ne peut pas le dire comme ça, il se sert, mais en même temps on peut le dire. La corruption étant telle, je vous rappelle que quand même, lorsqu'on analyse tous ces pays de la CEI, il y a un facteur d'analyse qui est pratiquement, moi j'aime bien l'appeler facteur d'analyse géopolitique, c'est le facteur de la corruption. Si vous êtes d'accord de mettre le prix, on peut imaginer qu'on peut obtenir énormément de choses.
Mais j'imagine que les autorités russes ont conscience du problème et des moyens peut-être pour arriver à trouver une solution.
Bien sûr qu'ils en sont conscients. Ils ont tellement peu d'argent déjà pour financer des forces armées qui, je vous le rappelle, sont absolument énormes. On a toujours tendance à dire que les forces armées russes représentent 1 million d'hommes. Non, elles ne représentent pas 1 million d'hommes, elles représentent 2 millions d'hommes. Donc il faut financer tout ça, c'est absolument énorme. Ça représente énormément d'argent. Donc les Russes, on le voit bien, n'injectent pas d'argent dans tout ce qui est désarmement et probablement pas dans tout ce qui est sécurité des dépôts d'armes. Donc tout ça, c'est délégué, le désarmement, qu'il soit chimique, nucléaire, bactériologique, est très largement délégué à l'aide internationale. On peut imaginer qu'une puissance qui fait la guerre en Tchétchénie, qui a vraiment d'autres chats à fouetter, que d'autres argent à affecter en tout cas pour construire, pour rebâtir sa force nucléaire et ses forces conventionnelles, ne va pas injecter d'argent dans tous ces domaines un petit peu annexes. La Russie est l'un des pays qui est les plus pollués au monde, trouve des dépôts nucléaires un peu partout, ou des dépôts chimiques un peu partout, même au centre-ville de Moscou si vous y allez. Donc je ne pense pas franchement que ce soit que la sécurité et la sûreté des entrepôts d'armes, qu'ils soient chimiques ou nucléaires, soit vraiment une priorité des états-majors.
Alors, on parle également d'anciens scientifiques russes qui pourraient exporter leurs connaissances vers des réseaux peu recommandables également.
Effectivement, il y a eu beaucoup de rumeurs de scientifiques qui sont partis. Bon, là aussi, il y a eu des programmes qui ont été mis en place, entre autres par les États-Unis, pour fixer des programmes, entre autres, de financement des ex-cités militaires, des centres de recherche qui étaient des centres de recherche fermés. Il y a eu énormément d'argent qui a été injecté par la communauté internationale, les États-Unis comme d'habitude en tête, pour fixer justement les scientifiques. Alors il y a eu des chiffres qui ont été avancés, on en a parlé à un moment au début des années 90 de 10 000 chercheurs dans le nucléaire qui seraient partis proposer leurs services. Ça a été probablement vrai, mais ce qu'on ne dit pas, c'est où sont allés ces chercheurs. Alors, il n'est pas du tout certain que ces chercheurs sont partis dans des domaines nucléaires. Beaucoup de chercheurs se sont reconvertis dans les affaires, se sont reconvertis dans la technologie beaucoup plus classique. Encore une fois, je ne suis pas convaincu que les scientifiques russes soient vraiment les premiers vecteurs d'une prolifération nucléaire, même si on en a retrouvé en Corée, même si on en a trouvé en Chine, etc. En tout état de cause, si ça existait, et ça a sûrement existé, ce sont des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Les frontières se sont ouvertes à partir de 91, ce sont des gens qui sont partis, qui ne gagnaient pas un sou en Russie, et qui sont partis vendre leur savoir-faire. Mais bon, on a trouvé des scientifiques, beaucoup en Corée du Sud, hein. Je vous rappelle que les technologies laser qui ont été déployées par, entre autres par Samsung, etc., pour la technologie des lecteurs de DVD, bon, sont très largement dues aux scientifiques russes, par exemple. Donc, bon, il ne faut pas quand même voir le mal partout. Les Russes ne sont probablement pas les premiers vecteurs de la dissémination nucléaire dans le monde.
Dans un tout autre style, l'Union européenne, elle non plus, n'est pas neutre sur ce terrain de l'armement. Certes, pas de trafic, mais un commerce toujours plus important qui tend à se libéraliser. L'Union européenne vient d'adopter un code de conduite, code qui permettra d'ouvrir la concurrence au sein de l'Union sur le marché des armes. Le but, simplifier les transactions et insuffler plus de transparence. Pourtant, les observateurs craignent l'effet inverse. Plus d'opacité et moins d'éthique dans un marché déjà bien cynique. Écoutez l'analyse de Patrice Bouvray, directeur de l'Observatoire des transferts d'armement.
Pour le l'armement, chaque État, je dirais, avait gardé le marché de l'armement, échappait au système d'appel d'offres, au système de marché unique au niveau de l'Union européenne et à la libre circulation des produits à l'intérieur de l'Union européenne. Alors que dans le même temps, comme il y a une européanisation, je dirais, de l'industrie d'armement, il y avait de plus en plus de coopérations qui étaient établies ou d'entreprises qui avaient des établissements dans les différents pays de l'Union européenne. Et pour transférer des produits, par exemple, d'une usine française à une usine en Espagne ou en Allemagne, ils étaient obligés de passer par les procédures d'autorisation d'exportation. Donc, ce qui, effectivement, au niveau purement administratif, bon, pouvait être lourd. L'ennui de cette libéralisation, malgré tout, c'est qu'effectivement, tous les pays de l'Union européenne n'ont pas forcément, par rapport à l'exportation en dehors de l'Union européenne, exercent les mêmes contrôles sur les ventes. Et donc, du coup, une entreprise qui voudrait vendre à un pays qui est un petit peu litigieux, on va dire, pourrait utiliser la libre circulation pour aller, plutôt que les produits finis partent de France, par exemple, partent d'un autre pays où la législation serait moins contraignante ou moins tatillonne sur ses exportations, de façon à pouvoir quand même vendre à l'extérieur plus facilement.
Il y a des pays comme ça où le contrôle est moins strict.
Oui, je pense que, bon, entre autres, pour des raisons aussi historiques, et les pays qui viennent de rentrer dans l'Union européenne ont moins des contrôles moins forts, ont une législation moins prégnante sur les exportations d'armes que actuellement les pays comme la France ou comme le Royaume-Uni ou comme l'Allemagne, qui ont des législations plus ancrées, un contrôle plus fort au niveau de l'État sur ce qui se passe.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui sur ce marché des armes au sein de l'Union européenne ?
Ce qui nous fait le plus peur, c'est qu'effectivement le passage à l'Union européenne réintroduise, je dirais, une espèce d'opacité qui avait évolué à l'intérieur de la France, par exemple. Puisque bon, en France, c'est quand même des choses assez récentes, on commençait à avoir un rapport au Parlement qui est réellement consistant, dans lequel il y a réellement de l'information. Il y avait aussi des échanges qui commençaient à s'établir au niveau entre parlementaires, société civile et État. Donc il y avait une espèce de un début de débat démocratique sur pourquoi on vend des armes, à qui on en vend et qu'est-ce que ça veut dire d'en vendre. Et que le passage à la mise en place au niveau de l'Union européenne réintroduise cette opacité et que de nouveau les armes redeviennent quelque chose qui soit contrôlé que par une toute petite poignée de gens au niveau de l'exécutif, mais plus du tout, qu'il n'y ait pas du tout de débat sur ces questions-là qui s'installent dans la société civile. Parce que la France exerce un réel contrôle sur les ventes d'armes, ça on ne va pas dire le contraire, mais ce contrôle, il est uniquement au niveau de l'exécutif et au niveau d'un petit noyau de gens de l'exécutif. Et là, vraiment, au ministère de la Défense, Élysée et Affaires étrangères. Mais si dans le même temps, les enjeux se passent dans une autre instance, et donc l'instance de l'Union européenne, on va réintroduire cette opacité.
En quoi on va réintroduire cette opacité ? En quoi l'Union européenne rend les choses plus compliquées ?
Par exemple, le Parlement européen n'a aucune implication dans ce qui se passe à ce niveau-là. Les principaux pays exportateurs ont mis en place un accord entre eux, l'accord de Farnborough, au niveau de la mise en place et d'une industrie d'armement européenne. Il n'y a aucune transparence qui est faite sur ce qui se passe à ce niveau-là. Ils devaient mettre aussi dans le cadre de cet accord des licences globales d'exportation de produits. Il n'y a aucune information qui est faite sur la mise en place de ces licences. Et donc du coup, on n'est pas au courant de ce qui se passe.
Parce que j'imagine qu'il y a des enjeux financiers énormes et est-ce qu'il y a une sorte, entre guillemets, de club privé de ceux qui profitent de ces ventes d'armes ?
C'est des enjeux énormes parce que c'est par là que passe toute la recherche-développement et tout ce qui va tirer toutes les nouvelles technologies, toute la haute technologie, effectivement, est financée au départ sur des programmes, je dirais, à vocation militaire, y compris dans tout ce qui est un peu en germe actuellement autour des nanotechnologies. Donc les recherches militaires sont un petit peu noyées sous couvert de recherches civiles. Et si on mettait le même investissement dans des recherches réellement civiles dès le départ, on pourrait développer des produits qui apportent un réel bien-être en termes de développement durable et soutenable au niveau des nations, plutôt que de ponctionner toujours au profit de produits qui sont à finalité militaire.
Voilà pour ce Mondoscopie consacré aux armes et à l'armement. On se retrouve la semaine prochaine.